Radio Barque, deuxième partie de notre 28e, où tu prévois, Michel, un sujet sur Mélenchon, et tu sous-titres ça « La stratégie du pire ».
Oui, oui, j'ai fait un billet là-dessus, parce que à la sortie en fait, des résultats, Jean-Claude, à l'écoute du discours de Jean-Luc Mélenchon, mes bras en sont tombés. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, est-ce que c'est le Mélenchon de 2002? Alors, c'est qu'en 2002, Mélenchon, quand il a appelé à faire le Front républicain contre Le Pen, hein, bon, il avait été le ministre de Jospin, était un sénateur socialiste bien installé, ouais, membre du Parti socialiste, etc.
Dans une respectabilité gouvernementale.
Maintenant, effectivement, il ne l'est plus. Donc, c'est vrai qu'en 2012, il est dans un parti, il fait dans un mouvement, hein, dont il a, qu'il a mis en mouvement avec une stratégie parfaitement claire. Et c'est ce dont je voudrais parler, en fait, Jean-Claude, parce qu'aujourd'hui, je n'entends et ne lis que des commentaires dans le style « mais voilà, bon, Mélenchon, c'est du ressentiment, en fait, il a mauvais caractère, il est de mauvaise humeur ». Pas du tout. Hein. Les propos qu'il a tenus, à savoir que je ne donnerai pas de consigne de vote et je ne dirai à personne ce que je vais voter, en fait, le 7 mai, hein, c'est dans la logique, en fait, sa logique politique, qui est d'un cynisme absolu. Hein. Quel est l'objectif visé? Il a dit lui-même, je ne l'invente pas, hein, c'est de mettre à bas le Parti Socialiste, en fait, et ce qui en restera, en fait, après le deuxième tour, d'une part, hein, et de renvoyer, en fait, dans la droite classique, républicaine, hein, au tapis, en fait, au profit de Marine Le Pen, pour se trouver, pourquoi? Pour mettre en place un face-à-face, lui, contre Marine Le Pen, en espérant qu'effectivement il gagnera effectivement ce face-à-face un jour. Donc sa stratégie, oui, elle est claire.
Hein,
même ses collaborateurs disent pas une voix pour Le Pen, hein, mais ils disent pas contre, hein, disent en langage codé, abstenez-vous, hein, votez blanc, hein, mais s'il vous plaît, ne votez pas pour Macron. Parce que pourquoi, en fait, l'objectif visé par Mélenchon, comme je l'ai dit,
oui,
en fait,
oui,
précédemment,
oui,
je vais dire encore de manière plus claire, hein, c'est au mieux tant qu'à y être,
bon, Marine Le Pen, des décombres,
pire, bon, l'écart le plus faible possible, en fait, entre Macron et Le Pen, pour que moi j'engrange effectivement derrière les restes et les débris du Parti Socialiste, et que je me constitue comme seule force légitime à gauche, hein, pour me payer effectivement tous les autres. Oui. C'est ça l'objectif.
Oui, mais c'est un manque de clairvoyance politique qui surprend quand même. Okay,
et qui amène d'ailleurs certains...
On se demande quelle mouche l'a piqué récemment, quoi.
Ah, oui, non, parce que il a décidé effectivement que c'était cela, l'avenir,
oui,
de la France. Et quand je lis, en fait, bon, comme dans Le Monde, hein, des phrases qui sont prononcées par ses soutiens, voter pour Macron aujourd'hui contre Le Pen, c'est avoir Marine Le Pen dans 5 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il vaut mieux à la limite l'avoir maintenant. C'est ça qui dit clairement, en fait, une manière très hypocrite par ses tenants. Alors qu'ils y aillent, quoi. Non, je trouve qu'on est dans une extrême confusion politique. Et que de ce point de vue-là, Mélenchon joue la carte du pire, parce qu'effectivement, rien ne garantit aujourd'hui qu'au second tour, hein, Macron l'emporte sur Le Pen. Ce qui, je le dis clairement, bon, tant pis si on me le reprochera un jour à cette antenne, en tout cas, n'est pas du tout, en fait, ma tasse de thé, bien au contraire, quoi. Donc, il fallait que je le dise clairement.
Non,
donc oui, effectivement, on est dans une situation très confuse. Et ce genre de comportement de Jean-Luc Mélenchon, je le trouve totalement irresponsable.
Et puis, objectivement, il faut savoir si certains veulent Le Pen, qu'ils l'assument.
Clairement.
Qu'ils l'assument, clairement.
Clairement. Voilà. Exactement.
Or, là, on est dans la confusion, mais la plus totale et la plus entretenue. Et chaque jour qui passe ajoute à la confusion.
C'est exactement
ça. C'est
ça
qui est surprenant. Alors, on va terminer cette deuxième partie par quelque chose qui est relativement confus aussi, hein, de prime abord. Ça serait la démission d'office de Mme Garbet, adjointe au maire de Narbonne, qui est prévue dans un futur conseil municipal.
Ah oui, donc pire que ça. Donc là, pire que ça.
Pas pire. Oui, une démission d'office.
Oui, d'ailleurs que Monsieur Didier Mouly considère que, compte tenu des engagements pris par Marine Garbet, engagement relatif, de candidater à l'investiture et la marche qu'elle n'a pas encore et dont elle n'est même pas sûre qu'elle l'aura. Hein. Donc Didier Mouly a considéré que cela était tout à fait contradictoire avec la charte de Nouveau-Narbonne, je vais y revenir, et que par voie de conséquence, comme elle n'a pas voulu démissionner, ce qui prouve quand même qu'elle a un minimum de force de caractère, Marine-Noël Garbet, je ne démissionne pas de mon mandat.
De toute façon, le maire ne peut pas l'obliger à démissionner.
Exactement,
ça,
donc conclusion, comme elle n'a pas voulu démissionner contrairement à Mme Grani, mais pour d'autres raisons, hein, ben, il est obligé de l'envoyer, de proposer la démission en question au prochain conseil municipal du 5 mai, si,
du 4 mai,
ou du 4 mai, si j'ai bonne mémoire.
Oui, donc très prochain.
Alors, tu me feras... Du coup, je me suis, Jean-Claude, penché sur cette charte de Nouveau-Narbonne, hein, normale, et très honnêtement, je n'ai rien lu, qui pourrait en fait, permettre à Didier Mouille de s'appuyer sur elle pour sanctionner de cette manière-là Mme Garbet.
En tout cas, à cette date.
À cette date, d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour conforter mon analyse, si je puis dire, il suffit de prendre acte de ce que le père de Didier Mouille a fait dans ce même genre de circonstances. Que je sache, quand M. Madal, qui était son premier adjoint...
Pendant longtemps, d'ailleurs.
Candidaté pour le compte du RPR de l'époque.
Mmh. Hein, à la députation. Et a été élu.
Avant qu'il ne soit élu, il a conservé son mandat de premier adjoint de Mouly. Ça veut dire que pendant toute la période où il a déclaré sa candidature, où il a fait campagne, et avant qu'il ne soit élu, il était toujours le premier adjoint d'Hubert Mouly.
Dès qu'il a été élu, ses délégations ont été retirées.
En parfaite conformité avec la charte en question que j'ai lue attentivement, il a démissionné. Mm-hmm. De la même manière, Léon Pujot...
Enfin, il lui a retiré les délégations.
Il a retiré les délégations, exactement. Mm-hmm. De la même manière, Léon Pujot, quand il a candidaté... Oh, à l'époque, je crois que c'était Barre, en fait, hein, qui était
oui,
le favori de...
Oui, bon, c'était les centristes.
C'était les centristes. Quand Léon Pujot, qui était aussi l'adjoint d'Hubert Mouly, mm-hmm. est parti à déclarer sa candidature législative... Il n'a pas été démissionné par Hubert Mouly. Pendant qu'il a fait campagne pour gagner cette circonscription, il n'a pas non plus été démissionné par Hubert Mouly. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette lecture-là de Didier Mouly, en fait, cette charte-là, hein, au regard en fait, des principes que son propre père, hein, jurisprudentiellement, avait effectivement exprimés et défendu avec sa propre majorité.
Oui. Mais la nuance dans la charte de Nouveau-Narbonne, c'est de faire la différence entre un engagement politique et des responsabilités exercées politiques. Voilà. Donc quelqu'un qui se présente, tant qu'il se présente, il se présente.
Oui, mais il n'existe pas de responsabilité.
À partir du moment où il est élu, là, bien entendu, on considère à Nouveau-Narbonne qu'il ne peut plus en même temps exercer des responsabilités à Nouveau-Narbonne.
Donc c'est pour ça que je dis effectivement que Marie-Noël Garbet est parfaitement, sur le fond et sur la forme, elle est parfaitement en ligne avec la jurisprudence d'Hubert Mouly, et que Didier Mouly, en l'espèce, opère une espèce de coup d'État en fait, idéologique et politique à son détriment, qui me paraît pas du tout conforme effectivement à la philosophie de son père et de son mouvement.
Ce qui est surprenant, et ce qui fait dire à l'intéressée, Marie-Noël Garbet elle-même, dans la presse écrite L'Indépendant, pour ne pas le citer, qu'elle attire l'attention sur le deux poids, deux mesures qui est flagrant. Et elle-même, alors, parle, je la cite, de les manœuvres de certains. Alors, ce que j'aimerais connaître, qui sont ces certains. Mais il est évident que là, il n'y a pas une règle unique appliquée à tout le monde dans les mêmes conditions.
Exactement.
Et c'est là où le bas blesse, si je puis dire. Alors que sur le fond, bien entendu, Nouveau-Narbonne doit appliquer sa charte, en tout cas, a parfaitement le droit de l'appliquer. Et elle est signée par tous les gens qui se sont engagés.
Bien sûr, mais Marie-Noël Garbet ne le dit pas, mais quand même, quoi. Didier Mouly lui-même a dit qu'il militerait pour le maintien de Mme Fabre en fait, comme députée de la circonscription socialiste.
Ça n'a pas été aussi clair que ça, mais enfin, ça a été quand même. Là aussi, assez.
Là aussi, quand même.
L'interprétation permet.
De ce point de vue-là, d'ailleurs, encore une fois, la clarté eût été effectivement que Didier Mouly se cale sur la jurisprudence de son propre père à la matière pour tous les cas qui se sont présentés devant lui dans ce genre de circonstances.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas, on verra ce qui va sortir de ce conseil municipal narbonnais du 4 mai. On marque une deuxième pause, après laquelle, je le rappelle, nous retrouverons notre invité Henri Boris, qui est le président de Rubresus, une association de défense écologique environnementale. Enfin, il va nous expliquer tout ça. À tout de suite.
À tout de suite.